Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Et nous sommes le mercredi 22 décembre. Il est 16h et on se retrouve pour une émission spéciale. Une émission spéciale déjà parce que eh bien, c'est la dernière de cette année 2021. Et puis parce que je suis en compagnie de Thibaut Roy et de Sébastien Jacquelin. Donc une émission spéciale puisqu'on va parler de sport. On va parler aussi d'histoire, de stade. Voilà, une émission consacrée aux infrastructures sportives et aux stades à travers le temps et l'histoire. Alors Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de revenir dans cette émission. Et oui, parce que tu es déjà venu dans une émission précédente où on avait parlé de tes travaux, notamment sur le basket Tourangeau.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et bon, c'était une heure, c'était assez court. Donc là, on avait plein de choses à dire déjà la dernière fois. Donc on remet le couvert pour cette émission, voilà, consacrée à ce nouveau sujet. Et puis il y a Seb aussi.
Salut.
Salut Seb, voilà Seb, grand passionné de foot, amoureux de l'Ajax d'Amsterdam, mais aussi de Marseille. Voilà, il m'a mis plein de clubs sur le conducteur, il est amoureux de foot en fait. Voilà, on va pas tous les citer, mais on peut te retrouver aussi dans l'émission Tsigalco United, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, le premier mercredi de chaque mois. Je suis un peu à la bourre là, j'avais des émissions courtes, j'ai pas bien travaillé, tu vois, et je suis un peu en retard sur le rythme.
T'as pas renouvelé les émissions, d'accord. Bah c'est pour ça qu'on te retrouve dans.
Mais c'est à venir à la rentrée,
voilà.
Ça.
Et puis ça marque le coup de cette fin d'année. Bon alors c'est un peu toi qui m'a aussi soufflé le sujet de l'émission quand même, hein, je dois l'avouer. On en avait quand même discuté avec Thibaut. Et puis tu m'as aussi filé un article, voilà, dont j'aimerais bien que ça soit le point de départ de cette émission. Un article super intéressant, hein, d'un architecte français d'origine italienne qui s'appelle Rudy Ricciotti. Voilà, un passionné de foot qui évoque en fait dans un entretien, eh bien, le lien entre l'architecture des stades, l'émotion, le sport, voilà, avec un titre évocateur. Le stade, ça parle du peuple. Donc voilà, il parle de sa vision un peu, voilà, presque charnelle de l'architecture d'un stade. Il est un peu spécial, hein, le Rudy, on va pas se mentir.
On va repréciser aussi, c'est un article qui était paru dans un hors-série de SoFoot, ouais, en 2012, si je ne m'abuse.
Voilà, et puis bon, le début de l'interview, on sent qu'il est distrait, Rudy Ricciotti, par une femme à côté de lui. Mais c'est intéressant parce que voilà, il nous fait comprendre en fait que le stade, eh bien, c'est pas seulement le réceptacle des émotions, mais ça peut aussi en créer. Et donc voilà, on part de cet article. Moi, je trouvais ça intéressant de partir là-dessus pour tout simplement partir dans une première partie de cette émission sur le stade des origines, le stade de la Grèce antique, avec d'où vient tout simplement le. Peut-être Thibaut, tu peux nous en dire un peu sur notamment
l'étymologie peut-être.
Voilà, l'étymologie, ouais, du mot stade.
Ouais, le stade, c'est au sens grec du terme, déjà la façon de se tenir debout. On approprie à Olympie, bien évidemment, les premières activités dédiées, alors dans des cas très spécifiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait comme pratique sportive aujourd'hui, bien les premières activités. Et à ce titre-là, le stade d'Olympie est un stade autour duquel on se tenait debout, hein, sur les contreforts de ce stade. Une légende raconte, bon, que c'est. Ces activités qu'on peut pas tout à fait qualifier de sportives à l'époque se déroulent sur une piste de 192 mètres de long qui correspond à 600 pieds de l'époque. Les 600 pieds qui sont en fait le 600 fois le pied qu'Hercule aurait marqué pour entourer en fait le contour du stade suite au nettoyage des écuries de Gias, un de ces fameux travaux réalisés avec succès et qui, dans le cadre d'une fête organisée pour remercier Zeus de son aide pour accomplir cet exploit, eh bien, il aurait décidé la création d'un concours avec ses frères. Et dans le cadre de ses 600 pieds, il aurait créé une course fratricide. Et donc, c'est un peu l'origine, un peu légendaire de ce premier stade. Les Jeux Olympiques, eux, ils sont...
Ouais. On va préciser quand même, 192 mètres divisé par en 600 pieds, ça fait quand même un pied de 32 cm.
32 cm, ouais.
Donc Hercule, ça devait quand même être un bel athlète. Hein.
Voilà,
de jolis pieds, de jolis pieds.
Ouais, on est déjà dans la partie mythologique, toute la légende qu'entoure le stade déjà à cette époque.
Tout à fait.
Et ouais, tu voulais rajouter peut-être
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, après, au-delà de cette légende initiale, donc le mot stade a pris le nom de la course, justement, qui était réalisée à l'intérieur de cet espace. Et puis, par extension, c'est devenu, bien évidemment, toute l'infrastructure sportive telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a bien évolué, puisque les premiers stades sont de forme assez longue et étroite, avec une piste très serrée. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'évolution des sports depuis la fin du 19e siècle a fait que les stades ne sont plus du tout sur le même plan, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission.
Peut-être que pour les auditeurs qui veulent se faire une idée, ils peuvent regarder à quoi, quand on parle d'un virage serré, c'est en fait un peu l'image de ce qui se trouve encore aujourd'hui au stade d'Olympie, c'est ça ? Un U très resserré, quoi.
Ouais, alors au stade d'Olympie, il ne reste pas énormément de choses au niveau infrastructure, hein. Les choses ont bien vieilli. Un exemple qui peut être très marquant, c'est le stade
Panathénaïque,
pardon.
Ouais, c'est ça.
D'Athènes, qui a été édifié sous le 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui, lui, a été le théâtre de fêtes religieuses très importantes, mais aussi sportives, et qui a, lui, été rénové, agrandi, et tombé en désuétude au fil des temps. Il a été rénové aussi au 19e siècle, avant la création des Jeux Olympiques de l'ère moderne, la rénovation des Jeux Olympiques voulue par Pierre de Coubertin en 1896, il a été redécouvert en fait. Et il est un exemple assez fascinant de la façon dont justement ces stades, tel le stade Olympie, étaient réalisés avec, comme tu le disais, ce virage très serré et très étroit. Et on y a tenu des manifestations très importantes. Je repense notamment à la finale lors des championnats du monde d'athlétisme en 1997. On y a fait la cérémonie d'ouverture sur une musique de Vangelis, les chariots de feu avec tout ce que ça a induit en termes d'épopée. Et puis on a essayé de rapprocher en fait ce qui avait été fait il y a bien longtemps, en 1896, de ce que devenait l'athlétisme, bien évidemment, en essayant de créer tous ces liens à travers l'histoire. Et puis on y a aussi fait plein d'autres choses. Je pense aussi en 1970, le club de basket de Vichy a éliminer l'AEK Athènes dans ce stade qui était transformé à l'occasion comme une gigantesque salle de basket à ciel ouvert devant 80 000 spectateurs. La Jeanne d'Arc de Vichy a été le premier club français de basket à pratiquer une finale européenne, perdue malheureusement, mais il a réussi à garder son avantage du match aller dans cette ambiance indescriptible devant 80 000 personnes assez hostiles dans ce stade-là. Donc il est étonnant de voir comment ce stade a réussi à traverser les âges et est encore quelque chose qui est ancré dans la mémoire collective du sport et des Athéniens et des Grecs en général.
Et puisqu'on parle des Athéniens, effectivement, il n'est pas aisé de prononcer le mot panathénaïque. pour ceux qui suivent le football, il y a toujours un grand club de foot, qui est un club omnisport d'ailleurs à Athènes, ouais, qui s'appelle le Panathinaikos. Et ça veut bien dire, d'un point de vue étymologique, le club de tous les Athéniens. Donc on est toujours dans cet esprit-là.
Voilà, qui a son grand rival, qui est plutôt lui orienté sur le côté du Pirée.
Du côté du Pirée, l'Olympiakos. Et puis tu parlais de l'AEK, l'AEK, ouais, qui est en fait le club des Grecs qui avaient fui l'Empire ottoman. Enfin voilà, donc après la Première Guerre mondiale, il me semble, cette période-là. Voilà, donc les grands clubs athéniens, le portrait dressé.
Ouais, c'est ça, le stade. Donc il servait du coup aux grandes Panathénées, qui était donc une fête religieuse. Et moi, je me suis replongé un petit peu dans mes travaux de licence d'histoire, et j'ai retrouvé des choses intéressantes, notamment des historiens par André Chankowski ou Pierre Vidal-Naquet, qui parlent en fait, donc là, pour resituer un peu la période historique, le stade des Panathénaïques, le stade panathénaïque d'Athènes, voilà, il a été construit sous l'impulsion de Lycurgue. Donc Lycurgue, c'était vraiment le gars qui adorait Sparte. Voilà, c'était donc Sparte, le modèle démocratique VS Sparte, le modèle, oligarchique VS Athènes, le modèle démocratique. Et donc, Lycurgue, il va faire construire ce stade. On est en 330, on est après l'hégémonie d'Athènes sur la mer Égée. On est après la défaite de Chéronée. Donc, la défaite de Chéronée, c'était par le Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Et donc, on est dans un moment assez tendu politiquement, où il y a un mot qui peut caractériser en fait cette période, c'est le mot polémos. Le mot polémos, eh bien, ça signifie tout simplement le combat duel entre les cités. Voilà, c'est soit l'autre ou soit moi, hein, c'est un enjeu de pouvoir. Et à l'époque en fait de ce stade, à l'époque de tout simplement du développement du sport, hein, alors pas du sport comme on l'entend aujourd'hui, mais il y avait un sens, ce sens-là, c'était l'agone. Et l'agone, ça signifiait la compétition et une autre logique. L'agone, c'est la voie d'un combat qui obéit à des règles, à quelque chose donc qui se trouve beaucoup plus près de la compétition que de la guerre contre un ennemi à battre. Dans ce contexte, l'enceinte du stade, son infrastructure, pose le cadre de ces règles du combat sportif, voilà, qui a tout de même une dimension politique. Hein, et voilà, pour faire un anachronisme, on pourrait dire que c'est les règles du fair play, entre guillemets. Un gros anachronisme, mais voilà, qui arrive. Alors, du fair play, bon, on pouvait. Après, il va y avoir des gladiateurs avec les Romains et tout. Je sais pas si on peut appeler ça ce fair play, hein, ils s'entretuaient quand même. Mais voilà, l'enceinte du stade peut caractériser voilà, cet esprit agonistique qui peut être voilà, aussi servir de catharsis à l'époque, hein, d'expulser toutes les frustrations en dehors. On les expulse dans le stade. Voilà, voilà. Est-ce qu'on continue pour cette première partie parce que j'ai peur que ça soit trop long.
Je pense que tu viens de citer les Romains.
Ouais.
Parce que Thibaut a peut-être pas mal de choses aussi à nous dire sur les Romains, le Circus Maximus et d'autres infrastructures. Puis on fera la pause après.
Exactement. On peut continuer encore.
Très simplement sur ces infrastructures romaines, ce qui choque quand on les regarde avec le recul, c'est le gigantisme du Circus Maximus, puisqu'il était lui réputé pour accueillir, alors les sources divergent, mais près de 250 000 personnes.
En point de comparaison, le stade du Maracana à Rio, qui a accueilli lors de la finale du Mondial 1950 plus de 200 000 spectateurs, c'est encore un record au niveau foot qui a l'air dément, et là on parle de 250 000 spectateurs à Rome, donc là on est au-delà de ce qu'on a pu connaître à l'époque contemporaine.
Alors sur une emprise au sol qui va être beaucoup plus importante que le Maracana, bien évidemment, puisque c'est le cirque est tout en longueur, mais effectivement ça donne une idée, ça laisse imaginer le gigantisme de ces installations, et puis le Colisée qui est une infrastructure d'une modernité incroyable avant l'heure, avec toutes ces pièces cachées, c'est presque cette on a l'impression, quand on voit Bercy aujourd'hui par exemple, dans lequel on peut mettre de l'eau pour des compétitions de planche à voile, alors je ne sais plus si ça s'est fait récemment, mais ça se faisait beaucoup dans les années 90 notamment. À l'époque, dans le Colisée, on pouvait reproduire des combats de galères et faire apparaître des faux comme Bam Magie par des systèmes de monte charge, etc. Donc on est vraiment
il y avait des boutiques sous les tout gradins fait, ouais. Comme maintenant dans les stades.
Exactement,
qui comptent de plus en plus de merchandising, donc
ça préfigure presque l'espace de spectacle sportif actuel tel qu'on l'imagine et tel qui nous paraît le plus incroyable finalement. Donc il y a une modernité incroyable et puis surtout une dimension aussi pour le Colisée. Je ne sais plus qui disait que tant que le Colisée serait encore debout, Rome serait encore là. La personne qui a, je ne sais plus du tout qui a dit ça, mais je pense que je tronque un peu la citation, mais l'adage est assez vrai et le Colisée est encore un élément central, bien évidemment, un des éléments centraux de cette extraordinaire ville qui est Rome. Et alors les sources aussi la divergent, mais on s'accorde à dire que plus de 75 000, 80 000 personnes pouvaient se tenir dans le Colisée, ce qui paraît aussi assez dément aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire sur les dimensions, juste pour revenir du coup sur le stade encore panathénaïque. Moi j'ai trouvé, donc il a été rénové après donc, que Lycurgue l'ait impulsé. Il a été rénové par un Evergetz, qui était l'équivalent d'un mécène à l'époque. Il a été rénové et il pouvait accueillir 50 000 personnes. Donc moi j'ai trouvé ça énorme. Enfin, le Stade de France, c'est quoi, entre
80 000
tout le monde. Ouais.
C'est quand même, enfin, 50 000 personnes à l'époque.
C'est le Parc des Princes. Ouais. Voilà, un peu plus que le Parc des Princes. Ouais.
Sachant qu'on est à l'époque, on est encore sur cette dimension de, voilà, comme on en revient encore à l'étymologie de spectacle debout. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on prend bien évidemment beaucoup moins de place qu'en étant assis, mais ça n'enlève rien au fait qu'on est sur des dimensions tout à fait extravagantes, enfin qui peuvent paraître tout à fait extravagantes à l'heure actuelle par rapport aux moyens qui étaient disponibles à l'époque.
Et puis ça veut dire aussi que ces événements sportifs avaient la capacité de rassembler ces gens. Ça veut dire qu'on fait 20, 30, 40, 50 000 personnes se déplaçaient pour ça, et il n'y avait pas les moyens de communication. Je veux dire, il n'y avait pas de communication sur les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il y avait des cités qui étaient en capacité d'accueillir un flux de personnes comme ça. C'est dans des mobilités à l'époque qui n'étaient quand même pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est énorme, quoi.
Et d'ailleurs, à ce sujet, tu me fais penser au fait que À Tours, son quartier de la cathédrale, il existe quelques vestiges d'un amphithéâtre qui était un des plus importants de la Gaule romaine à l'époque. On estime que 25 000 personnes pouvaient se tenir dans cet amphithéâtre, donc qui est vraiment directement quasiment sur le chevet de la cathédrale, hein, en descendant vers je cherche le nom de la rue, en descendant vers les cinéma studio, et on est sur des dimensions qui paraissent aussi à l'échelle de la ville de Tours à l'époque telle qu'elle existait, qui paraissent complètement incroyables. Alors on ne sait pas tout à fait si il existait suffisamment de population aux alentours pour drainer autant de public que l'amphithéâtre ne pouvait en contenir, ou si l'amphithéâtre a été tout simplement beaucoup créé de manière beaucoup trop importante par rapport à la population qui pouvait le fréquenter. Mais ça donne aussi une idée de ce qui, au plus proche de nous, pouvait être d'une importance assez incroyable. Voilà, quand vous regardez des vues aériennes, vous voyez l'emprise au sol de cet ensemble qui est assez impressionnant, effectivement.
Ouais, et pendant pendant les Romains, comme tu en as parlé, y a vraiment aussi cet enjeu de le stade devient un lieu de divertissement pendant notamment les feriae, les jours de fête en latin. Et bien, ça devient un lieu de, voilà, les jeux du cirque. On a toujours cette dimension sportive, mais on a en plus cette dimension de divertissement qui arrive sous l'époque romaine, sous la domination romaine, même si comme j'ai fait, je travaillais un peu là-dessus aussi, même si le foyer de civilisation grecque ne s'éteint pas, on a toujours des marqueurs de la civilisation grecque, mais effectivement on a cette dimension de divertissement qui arrive. Et voilà, est-ce qu'on peut passer
On fait une première pause et puis on se retrouve juste après. On va faire un petit bond dans le temps quand même. Donc une petite pause avant sera la bienvenue. Pause musicale.
Ouais, c'est vrai qu'on va faire un bond dans le temps.
On va s'écouter De La Soul pour c'est City Come True, le titre, je crois. Et on s'écoute ça tout de suite.
Exactement ça. On se retrouve juste après.
Son, my name is Plug One. I drop a certified gem for him or her. Rocking on your radio like the crash crew. Ask whoever you want. I'm managing the fault on the paper. Outside of that, we pull capers for days. Riding throughout the maze of streets. While we blaze the beat, watching the sweet things wiggle their butt to Plug Three. On the cut, moving on your whatever you got, we gon' get. Bringing our point to your position. Ripping stages with my thought coalition. Carrying on, eradicate all your stress. Slow, just another episode through these area codes. We banking on
my time. Running through your city. If you're missing out, it'll show we are ready. We got high times running through your city.
The hotness, talked about but never seen at the Loch Ness. Did you cop this, dropping inside your vein and like a train, we be running throughout your legs and arms. You're high off a talent and charm. Check the caliber, just be a smash like some fruit on stage with Gallagher. Wear your bib cause it's messy. Niggas scheming on my girl as if my name was Jesse. Watch your manners, now let me pass it off to Dave.
Yo, I said travels like Cameron LaRue. Small talking in the big city, it's all about getting the coins. Everywhere I go, I touch a tenderloin. Exporting a .com via Mark a bomb on your metro. Modern order, I ain't horse. Yo, take the cross and meet a nigga at the butcher. Cutting your girl, we on a world tour. Supplying your bloodstream with nothing but the pure uncut in
your high times running through your city. If you're missing out, it'll show we are pretty. We got high times running through your city.
We ain't walking on a yellow brick road. These streets stay red and bloody, kids. Study your code so you can easily pass. I stash a little love when I'm on the visitation. If you cross my lines, nigga, do the same. I'm guaranteed to run through and prove the game. Ain't bigger than the pieces in it. You see the pieces in it had me stuck traveling one side of the map. Clapping hands with rap cats who ain't deserve that. Long hauls and living out of suitcase, man. Chicken heads and gangs of fruitcakes, man. Ain't nothing better than exploring the outskirts, especially when she ain't got no pantyhose on and it's on.
High times running through your city. If you're missing out at a show, we a pity. We got high times running through your city. High times running through your city. If you're missing out at a show, we a pity. We got high times running through your city.
It's like the mercenary getting down. And we got Dave Banner getting down. And we got Maceo getting down. And of course, my nigga Eno getting down. And we got JB getting down. And of course, Slum B getting down. And we got my man Christ getting down. And we got Calm Sense getting down. And we got ND getting down.
De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. On est dans la deuxième partie de cette émission spéciale, voilà, sur le créneau de sortie pour la dernière émission de 2021. Une émission qu'on consacre à la croisée des chemins entre le sport et l'histoire, en parlant des stades et de leurs enjeux à travers l'histoire et le temps, avec Sébastien, qui est toujours là.
Toujours présent.
Toujours présent après cette petite pause musicale de la soul. Et avec aussi Thibaut Roy. Thibaut Roy, voilà, qui était déjà venu en tant qu'historien du sport.
De retour.
Comeback après cette pause musicale. Donc on a fait pour l'instant, dans la première partie de cette émission, le stade, on a parlé du stade des origines, de la Grèce antique. Et on a pu voir que le stade, qu'il est une fonction religieuse, sportive, il revêt un enjeu politique tout de même. Voilà, il a permis notamment de déplacer la question du pouvoir, du terrain de la guerre qui se réglait avant dans le polémos. Voilà, ça c'est pour ceux qui suivent, pour le petit point vocabulaire. Maintenant le stade se règle, on règle l'agone dans le stade, la compétition, et donc toujours le stade a un enjeu politique. Et donc on passe maintenant au stade comme objet politique dans la deuxième partie de cette émission, avec un peu les heures les plus sombres de notre histoire, puisque je crois que de nombreux stades ont servi durant l'Allemagne nazie ou les
fascistes. Ouais, on va parler des régimes totalitaires. Alors l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, on reste quand même avec un pied dans l'Antiquité, puisque c'est deux régimes qui, d'un point de vue idéologique, ont largement puisé dans l'Antiquité grecque ou romaine pour les fascistes. C'est des époques, effectivement, de construction de grandes infrastructures sportives. J'ai fait un petit peu le tour de tous les stades de première division de Serie A en Italie, et on se rend compte effectivement, quand on regarde les dates de construction, que beaucoup datent vraiment de l'époque fasciste. Un stade a retenu mon attention, alors déjà parce que j'en ai un souvenir ému, c'est le stade Renato Dallara, le stade de Bologne, parce que j'ai un souvenir de demi-finale de Coupe UEFA entre Marseille et Bologne en 99, et en fait j'étais jeune et j'avais été subjugué en fait par ce stade, à l'architecture assez étonnante et puis par la ferveur des supporters. Le stade Renato Dallara, il était construit en 1925, inauguré en 1927. Il s'appelait d'abord le Stadio Littoriale. Les architectes sont Umberto Constanzini et Giulio Ulisse Arata. Ces architectes sont membres du bureau d'architecture du parti fasciste. C'est des architectes qu'on va retrouver pas qu'à Bologne, qu'on retrouve un petit peu sur d'autres stades italiens, avec un petit peu toujours ce même modèle des stades de forme ovale. On retrouve sensiblement le même genre d'architecture au stade de la Favorita à Palerme, par exemple, avec des arcades tout autour, comme les arènes romaines. Présence aussi à Bologne de briques rouges, pour rappeler aussi le style architectural de la ville, surnommée la ville rouge. Alors pas que pour les briques, Bologne c'est aussi une ville surnommée la ville rouge en raison de la tradition électorale fortement marquée à gauche de la ville. Alors les fascistes, justement, peut-être pour lui faire payer à l'époque à cette ville, donc construisent ce stade qui a la particularité d'avoir une tour au milieu de la tribune d'honneur avec une horloge. Et à l'époque fasciste, cette tour qui s'appelle la tour Maratona, elle dispose d'une statue équestre de Mussolini. La statue équestre de Mussolini en bronze, elle fut fondue après la guerre et à la place avec, on a resculpté deux résistants italiens, deux partisans qui figurent à la même place. Donc voilà, on a réutilisé un objet du fascisme pour en faire autre chose.
Une belle revanche.
Après, il y a aussi les stades de Florence, le stade Artemio Franchi, qui est construit selon le même modèle. C'est aussi à l'époque fasciste, qui est construit en 1926, San Siro à Milan, où feu le Stadio Municipale, ensuite appelé Comunale, ancien stade de la Juve et du Torino, en 1933. Alors, c'est des stades qui ne sont pas exclusivement dédié au foot. En fait, parce que j'ai aussi regardé quels étaient les stades à la place desquels on avait construit ces stades, le régime fasciste. En fait, à l'époque, il y avait des stades, tout ce qui est plus classique, des stades, ce qu'on appelle maintenant à l'anglaise, des stades dédiés au football. Mais les fascistes, voilà, visaient pas que la pratique du football, il y avait aussi la reprise en main du régime sur les corps, et donc la pratique d'autres sports. Et donc, en fait, c'était des stades ovales, parce que c'était des stades avec des pistes d'athlétisme, c'était des stades voilà, multisports, et donc pas uniquement des stades de foot. Si on va du côté de l'Allemagne, bon, les sites les plus emblématiques, c'est évidemment le grand stade olympique de Berlin, construit à l'occasion des Jeux Olympiques de 1936, qui est très spectaculaire, mais qui est pas le seul, on va dire, objet architectural. Et en fait, il s'insère dans tout un parc. Hein. Il y a un village olympique et c'est un parc sportif. Il est accompagné de plusieurs grandes infrastructures sportives. Toutes n'existent plus, mais le grand stade olympique de Berlin, donc il a été rénové à de multiples reprises. La dernière fois pour la Coupe du Monde 2006, hein, c'est là où Zidane avait distribué son coup de boule.
On est passé des choses dans ce stade, c'est incroyable.
Voilà, donc il a été refait, mais il existe toujours et toujours utilisé. Et puis sinon, il y a de nombreux sites sportifs aussi à Nuremberg, alors qu'ils ne sont pas que des sites sportifs. D'ailleurs, il y a aussi toute une construction de sites qui servent à des meetings politiques. Je crois que Thibaut, tu sais un petit peu plus sur ces sites de Nuremberg.
On croise un petit peu le sport et
politique.
Et politique avec des lieux qui sont édifiés pour accueillir. On en revient à ce gigantisme dont on parlait tout à l'heure. Il y a des structures qui permettent d'accueillir des centaines de milliers d'adorateurs d'Hitler pour écouter ses discours lors des meetings du parti nazi. Moi, il y a un truc sur lequel juste je voulais revenir par rapport à ce que tu disais sur l'Italie. Au-delà des stades tels qu'ils ont été élaborés par le parti fasciste italien, on est vraiment dans une époque où justement le fascisme italien va utiliser le sport comme un levier très important, parce que l'Italie est un pays relativement peu développé en termes de sport à l'époque, et on va s'approprier les pratiques sportives à tel point qu'on va leur donner, hein, au-delà de toutes ces infrastructures sportives, pour bien marquer l'empreinte du pouvoir sur les sports, on va faire en sorte que les sports soient italianisés. Je pense au basket qui devient le pallacanestro, donc la balle au panier, et puis le volley qui est son cousin puisqu'ils sont nés un peu dans le même contexte, le volley quelques années après le basket, qui devient le pallavolo, donc
le foot qui devient
il
gioco calcio,
sachant qu'on réutilise un vieux terme, le calcio storico, qui est un sport beaucoup plus ancien et qui est d'une virilité et d'une
extrême,
violence absolue,
ouais.
Et qui est réutilisé pour ce nouveau calcio finalement qui est très italianisé finalement. Donc on a ces dimensions là qui sont assez fortes, puisqu'on a je connais pas d'autres pays dans le monde où on a vraiment une appropriation et une italianisation. Une utilisation de la langue pour renommer les sports existants.
Il y a eu une tentative, alors je sais pas, ça date de l'époque franquiste en Espagne, avec l'utilisation du terme ballon-pied football, que quelques clubs portent encore, notamment un club de deuxième division, Albacete, qui s'appelle comme ça, Albacete ballon-pied. Mais je sais pas après, dans le reste du monde, oui, s'il y a eu d'autres réappropriations comme ça du mot.
Et pour corroborer ce que vous dites sur cette réutilisation du sport par des régimes autoritaires. Pour parler du stade de Berlin, c'est un stade qui a aussi des allures, encore une fois, de construction grecque.
Ah, Colisée.
Parce que tout nationaliste va essayer d'aller chercher des racines mémorielles. Ouais. Et donc, le régime nazi avait choisi...
Il y a une toute petite spécificité chez les Allemands, c'est que les Allemands sont beaucoup moins marbre qu'à l'époque grecque et romaine. Et eux, c'est plutôt le granit qui les guide, parce que le granit, c'est vraiment l'apanage de l'arianisme, enfin de toute l'idéologie nazie et de la durabilité et de la puissance.
Ça va même jusqu'aux matériaux, en fait.
Exactement, parce que le granit vient, lui, juste couronner les structures en béton armé, puisque le stade olympique de Berlin, il est en béton armé. C'est un des premiers, mais c'est pas le plus récent d'exemple de structure en béton armé. Et en fait, on vient le garnir, en fait, pour asseoir encore plus l'image de puissance du parti nazi de granit, sachant que son architecte, alors je suis pas germaniste, donc je suis pas un spécialiste de la prononciation, Werner March, il n'était pas membre du parti nazi, il a été un peu poussé à le devenir en 1933, mais c'est quelqu'un qui était à l'origine du premier projet et qui avait déjà travaillé sur des structures sportives depuis les années 1910 et qu'on a invité à reprendre le projet finalement. C'est pas Albert Speer, par exemple, le grand architecte qui était, lui, sur le projet du Deutsche Stadion, qui était censé être un stade incroyable, qui va justement installer à Nuremberg. Hein, je reviens sur le sujet dont on parlait juste à l'instant. Ce projet qui était tellement important, parce que je crois que c'était aussi de réunir, je crois, plus de 250 000 personnes avec des aigles, des statues d'aigles de 12 mètres de haut qui surplombaient les tribunes, je crois, une centaine de mètres de haut. On est vraiment dans la démesure absolue, dans le gigantisme. On en a fait une maquette qui était déjà suffisamment importante, qui a été inondée par la suite et qui est devenue un lac, le Silbersee, un lac à Nuremberg qui est aujourd'hui un lieu d'agrément pour la population locale. Mais voilà, on voit à quel point, tant pour l'Italie fasciste que pour l'Allemagne nazie, les stades étaient importants pour asseoir une politique et un pouvoir. Et comme des traces sont restées de ces éléments-là et ont été réutilisées aussi par la suite.
Et puisqu'on parle de traces, on va filer du côté de l'Amérique latine. Avant, juste rappeler que l'URSS de Staline aussi a été à l'origine de la construction de très nombreux stades un peu partout, en plus sur l'ensemble du territoire, une espèce de maillage d'installations sportives, dont le stade le plus connu est toujours d'ailleurs utilisé, puisque la dernière finale de Coupe du Monde en Russie s'y est déroulée, c'est le stade Loujniki de Moscou, ancien stade Lénine, qui a accueilli des grands événements, les Jeux Olympiques, les Olympiades à l'époque du régime soviétique. Le régime soviétique n'était pas non plus en reste sur la construction d'infrastructures. On file en Amérique latine parce qu'il y a un stade qui porte les traces justement d'une utilisation politique, c'est le stade de Santiago du Chili, qui a servi de prison à ciel ouvert dans les jours qui suivirent le coup d'état fasciste du général Pinochet le 11 septembre 1973. Dans les gradins furent entassés les prisonniers politiques qui étaient interrogés et torturés sous les tribunes. Dans les vestiaires, le stade fut le théâtre quelques semaines plus tard d'une mascarade de football quand le Chili disputa un match de foot de qualification pour le Mondial 1974 contre l'équipe du RSS. L'URSS qui boycotta la rencontre en protestation de l'assassinat du président Allende. Le Chili se présenta donc dans un stade vide, affrontant une équipe fantôme. Les joueurs donnèrent le coup d'envoi face à personne, marquèrent dans un but totalement vide, ce qui scella sa victoire sur tapis vert et sa qualification pour le Mondial, avec l'accord de la FIFA, peu bavarde quant au fait que se jouait un match de foot sur ce qui était encore il y a peu un centre de détention. Le stade de Santiago abrite encore aujourd'hui un musée qui revient sur cet épisode tragique de l'histoire chilienne. Donc en plus, on est en plein dans l'actu, parce que le week-end dernier, les Chiliens votaient lors des élections présidentielles. Petite anecdote, le joueur vedette de cette équipe chilienne, Carlos Caselli, qui était le buteur de cette équipe. Lors du départ pour Mondial 74, il refusa de saluer le général Pinochet. Quelques jours plus tard, sa femme est enlevée et torturée par des militaires. Il milite pour le non lors du référendum de 1988. Voilà, donc le stade de Santiago qui porte encore les stigmates, en tout cas la mémoire y est cultivée sur ce qui a été un moment tragique de l'histoire chilienne.
Voilà, et effectivement, on était dans l'actualité. Hein. Bon, c'est pas José Antonio Kast qui est passé, qui se réclamait d'ailleurs de la
junte militaire,
la junte militaire de Pinochet. Et bien des stades, on a aussi. Alors, c'est pas un vélodrome. Est-ce qu'on peut appeler ça un stade? Oui ou non?
Alors, un stade vélodrome, c'est de facto
un stade. D'accord, ouais.
On en a eu énormément en France, notamment. Mais alors après, on peut utiliser, nous, l'acception de stade pour évoquer toute l'infrastructure sportive.
Ben, et puis, tu as parlé en plus d'une infrastructure qui est très connue dans l'histoire contemporaine de la France. Ouais.
Exactement, parce que je vais parler effectivement du stade de la rafle du Veldiv, le 16 et le 17 juillet 1942. Des milliers de Juifs ont été déportés après avoir été placés dans ce stade. Alors c'est un stade qui a été construit en 1909 pour accueillir des compétitions cyclistes. Notamment dans l'entre-deux-guerres, il a servi à la célèbre course des 6 jours de Paris. Et puis après, en 1931, l'Américain Jeff Dickerson va rénover le vélodrome, qui va prendre le nom de Palais des Sports de Grenelle. Le vélo va partager la vedette avec des compétitions de boxe, de tennis, de basketball, de hockey, de patinage artistique. D'ailleurs, je crois que Seb, t'as une petite anecdote.
Oui, dans le film Le Caf sur Bif, c'est un film des années 50-60 avec Jean Gabin. À un moment donné, dans le film, il a cette citation, il dit « ça, c'est du BSA extrapiste », ce qui veut dire que c'est génial. Et en fait, c'est une citation qui fait référence à un panneau publicitaire qui se trouvait au Veldiv pour la marque de roulement BSA. Et Gabin Audiard fréquentait assidûment le Veldiv avant la guerre pour des compétitions de cyclisme ou des combats de boxe. Donc, nul doute que la citation de Gabin fait référence à cette pub qui se trouvait et qui était connue visiblement de tous les spectateurs du Veldiv.
Et donc, on continue dans l'histoire. Et comme je l'ai dit, on arrive en juillet 1942, dans le contexte de la collaboration avec le régime de Vichy. C'est 13 000 personnes, dont un tiers d'enfants, qui vont être arrêtées avant d'être détenues au Vélodrome d'hiver dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, ils vont rester là sans eau, sans nourriture durant 5 jours. C'était dans le cadre de l'opération Vent Printanier, qui a été orchestrée aussi par des Français, Bousquet et Laval. Il y a eu très peu de survivants, je crois qu'il y a eu une centaine à peu près de survivants de tous ces déportés. Quelque chose qui m'a surpris, c'est que le stade a continué en fait de servir en fait après la RAF, puisque le vélodrome d'hiver va servir de cadre après à des compétitions de boxe, des épreuves équestres, des défilés de mode, des courses de taureaux. Il est également utilisé pour des meetings politiques entre 50 et 58, et aussi pour le célèbre spectacle Holiday on Ice. Et puis après, nouvelle guerre, enfin, à l'époque, on appelait ça les événements d'Algérie. Maintenant, on appelle ça la guerre d'Algérie, donc entre 54 et 62, on y met en fait les harkis, c'est-à-dire les supplétifs de l'armée française. En août 58, effectivement, en pleine guerre d'Algérie, le vélodrome va être réquisitionné pour y mettre donc les harkis, dont De Gaulle avait dit lors d'une conférence de presse du comité des affaires algériennes « Il faut se débarrasser de ce magma d'auxiliaires qui n'ont jamais servi à rien ». Voilà, l'ordre avait été donné par un certain Maurice Papon, qui sera malheureusement connu pour octobre 1961, et qui sera ensuite condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc voilà, le stade qui sert souvent de réceptacle des heures les plus sombres de notre histoire.
Alors, encore aujourd'hui, on connaît tous, on a tous vu à la télé des images du gigantesque stade de Pyongyang en Corée du Nord, qu'on connaît davantage pour les cérémonies que le parti des travailleurs en Corée du Nord organise que pour des compétitions sportives. Alors j'imagine qu'il y a des matchs de foot ou autres s'y tiennent, mais on voit bien que ce stade, il utilisait des fins de propagande, donc on n'est pas dans de la torture, dans des choses comme ça, mais en tout cas, le régime politique, il va à fond avec l'utilisation de ce stade, quoi.
Et puis le stade aujourd'hui du Vélodrome, il a été rasé, hein. Il est plus en activité.
En 59, ouais.
Il a été rasé en 59. Est-ce qu'on continue cette partie, Seb, ou
on fait une deuxième pause.
Une deuxième pause musicale.
On écoute un peu d'électro. C'est Bergsonis, c'est une jeune artiste marocaine qui habite à New York et qui nous fait de l'électro. Ça s'appelle Tout Maintenant.
Et on se retrouve juste après. Tour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Eh bien, on est toujours dans votre émission spéciale consacrée au stade à travers le temps et à travers l'histoire. Donc là, on a évoqué le stade durant l'époque nazie, l'époque fasciste, le stade lieu de violence, lieu de propagande. Et en parlant de violence, on peut.
C'est dans l'actu aussi, malheureusement. Mais oui. T'as préparé quelque chose sur des événements des années 80 restés douloureusement dans les mémoires, Maxime.
Oui, effectivement. Déjà, j'ai voulu savoir un peu à quand remontait je sais pas si on peut s'appeler ça une tradition, mais ce fait des hooligans. En fait, c'est présent dès le début du football professionnel en Angleterre. En 1885 déjà on recense des incidents en tribune et puis il y a une certaine clémence médiatique au début, voire une attractivité puisque au début des années 80 certains policiers du National Front, de l'extrême droite, vont faire un peu de l'entrisme dans ces mouvements. Et puis bah, là, on va parler du drame du stade des Ailes à Bruxelles. Que la répression contre les hooligans va prendre. C'est à ce moment-là que la répression contre les hooligans va prendre un tournant majeur. Voilà, c'est durant la Coupe d'Europe entre 1984 et 85, entre Liverpool et la Juventus. Les grilles de séparation et un muret vont s'effondrer en fait sous la pression et le poids des supporters, qui vont faire 39 morts et 400 blessés. Alors j'ai regardé les Juves, en fait les fans étaient face à face dans le stade. Normalement il y avait une espèce de zone grise dans un virage où il y avait un peu de supporters de la Juve, et puis les deux blocs étaient séparés par un no man's land d'environ 15 mètres. Déjà c'est dire l'ambiance, Kieran, je pense, t'avais l'espèce de tout le monde qui se regardait là.
Ouais, il faut dire aussi que dans les années 80, avant de réagir, ils ont quand même, malheureusement, il y a eu un certain laisser-faire. Enfin, les mouvements hooligans gonflaient, et que Liverpool, Manchester avaient des réputations qui étaient plus que sulfureuses. Hein. C'était une époque, quand on lit des résumés des championnats de rencontres du championnat d'Angleterre dans les années 80, les déplacements de supporters de Liverpool à l'extérieur, c'était ça déclenchait quasiment un plan hors sec. Hein. Les commerçants des villes qui accueillaient Liverpool baissaient le rideau. Enfin, c'était il y avait vraiment ce qu'on appelle des mises à sac. Avec tout à l'heure d'ailleurs. Tout un tas de codes aussi, de rites, parce qu'on est aussi, on s'inscrit en même temps dans les rites adolescents, donc il y a tout un tas de choses qui se mêlent. Par exemple, à Liverpool, leur grande spécialité, parce qu'ils avaient chacun en fait des spécificités, Liverpool, leur grande spécialité, c'était piller les magasins de fringues, et pour piller certaines marques en particulier, notamment Lacoste. Voilà, c'était connu, les supporters de Liverpool pillaient les magasins partout là où il y avait du Lacoste. Et donc un jeune homme dans les rues de Liverpool dans les années 80 qui porte des vêtements avec le crocodile, on peut se douter que ce qu'on appelle un scouser, ce qui est un mot assez péjoratif en fait, que les autres supporters utilisaient pour désigner les mauvais garçons de Liverpool. Et donc les scousers se trimbalaient aux quatre coins de l'Angleterre, sapaient en Lacoste, mais c'était que des trucs volés. Manchester, eux, ils étaient Manchester United, ils étaient dans une ultra violence gratuite. Leeds ou Chelsea, ils étaient dans du néo-nazisme clairement revendiqué. Ils tapaient tout ce qui ressemblait à des étrangers. Enfin voilà, c'était une déliquescence complète, des tribunes qui partaient dans tous les recoins de la violence, quoi.
Et pour reprendre donc ce drame qui a eu lieu donc dans le stade des Ailes à Bruxelles, en fait il y avait eu un match de U12 avant, et durant ce match déjà les supporters, alors même si c'est pas la Juve contre Liverpool, les supporters c'était déjà bien chauffé et avait pris parti, les insultes commencent à fuser, et vers 19h20, une centaine d'Anglais envahissent la tribune des Italiens. C'est une prise de tribune, voilà, typique de la culture des hooligans, sous la poussée donc des Italo-Belges qui n'ont pas l'habitude en fait de ces pratiques réservées jusque-là aux îles britanniques, reculent et se replient vers l'autre extrémité de la tribune, causant une bousculade. En bas des gradins, des portes donnant accès à la pelouse sont fermées, les forces de police présentes sur la pelouse repoussent même des spectateurs qui tentent de fuir par la pelouse. Le piège est en place, les grilles de séparation et un muret s'effondrent, des dizaines de personnes sont piétinées et le bilan est lourd. Donc comme je l'ai dit, 39 morts au total, dont 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et 1 Nord-Irlandais. Je crois que tu avais d'ailleurs un complément bibliographique, Seb.
Ouais, alors il n'est pas facile à trouver cet excellent ouvrage, mais c'est l'ouvrage qu'a fait École. C'est, pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, c'est Génération supporter de Philippe Broussard, le fils du célèbre commissaire du commissaire Broussard. Bref, Génération supporter, publié en 1990, voilà, qui est un tour d'Europe des années 90, de tous les mouvements ultra et hooligan de cette époque, donc en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Grèce, dans les Balkans et en Allemagne aussi, qui permettent d'en savoir plus sur ce phénomène.
Donc effectivement, l'enjeu du hooliganisme a fait naître un petit peu l'enjeu sécuritaire dans les stades et a peut-être influencé du coup l'architecture des stades en y ajoutant de nouvelles contraintes. Et on va enchaîner donc tout de suite sur la troisième partie de cette émission, plus sur les stades d'aujourd'hui, et finalement se demander si, comme le suggère Ricciotti dans son interview cité en début de cette émission, si les stades sont finalement aseptisés. Selon toi, Thibaut, est-ce que les stades d'aujourd'hui sont aseptisés ?
Moi, je le trouve. Je suis pas super fan de ce qu'on trouve comme stade aujourd'hui, et je trouve que tout ce qui est modèle de stade à l'anglaise, par exemple, de stade fermé avec des tribunes qui bouchent les angles et qui sont proches du terrain, ces stades-là ont tendance à disparaître, même en Angleterre. On parlait du club de West Ham qui a été invité à quitter son stade historique pour aller s'installer au stade olympique, qui est un stade qui est doté d'une tribune, loin du terrain, avec une piste d'athlétisme. Tout ça, pour moi, ça va un peu à l'encontre de ce qui est mon idéal du football et du sport en général, avec de la ferveur, des spectateurs qui sont proches du terrain. En France, on a effectivement des stades qui sont maintenant un peu conçus tous sur le même modèle. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent que les supporters, qu'il ne faut pas instaurer de règles ou quoi que ce soit. On a vu encore très récemment dans l'actualité que malheureusement en France le problème du hooliganisme était loin d'être réglé, mais je crois qu'il faut éviter de mettre un mouchoir sur ce problème là. Il faut prendre le problème à bras le corps pour trouver des solutions qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'il y a des clubs qui réussissent à concilier le supporterisme, le mouvement, même un mouvement ultra, avec de la sécurité.
En Allemagne, ils sont très bons là-dessus.
En Allemagne, ils sont à la pointe. Ouais. On avait discuté un peu de clubs allemands qui réussissent, à pacifier aussi leur tribune, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, et qui ont quelque part qui sont une représentation d'idéaux sociaux. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais moi, j'ai toujours l'exemple en tête de Sampaoli et de son approche assez novatrice sur tout ce qui est aide à la population, tolérance dans les tribunes, antiracisme et antidiscrimination en règle générale. Donc moi, c'est vraiment l'image que j'ai envie de garder de ces stades qui vivent, qui sont le réceptacle de messages positifs, et qui permettent de cristalliser aussi à travers le foot tout un tas de moyens de se retrouver, en fait, finalement.
En Allemagne, on a peut-être aussi des clubs justement qui n'ont pas eu peur de mettre les deux pieds dans le plat sur ce qui en France est malheureusement, alors en tout cas à mon sens, c'est aperçu comme l'idéologie ou un engagement plus fort que ce que les clubs font. C'est-à-dire qu'on est quand même, nous en France, il suffit de regarder en fait les comptes, les réseaux sociaux des clubs professionnels, c'est hyper aseptisé aussi, c'est hyper soigné, mais il n'y a rien qui déborde. En Allemagne, les clubs poursuivent certains clubs allemands sur les réseaux sociaux. Les clubs, il y a Sampaoli, mais il y en a d'autres, n'ont pas peur de s'engager pour l'aide aux migrants, contre le racisme, contre l'homophobie, sur plein d'événements qui se passent dans l'actu de leur ville. Les clubs se mouillent et automatiquement, ça entraîne quelque chose aussi derrière, ça refoule aussi peut-être ceux qui auraient envie de tenir le discours complètement opposé. Et c'est vrai qu'en France, on a du mal à aller là-dedans, quoi. Par contre, c'est sûr que malheureusement, on a des clubs qui vont se mouiller dans des choses où ils ont rien. Enfin, sur les événements du week-end dernier à Charletti, la communication de l'Olympique Lyonnais, elle est fortement compromise là-dedans, quoi. Et il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais, hein, d'autres clubs aussi qu'on fait de belles boulettes en France. Hein.
Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ajouterais que j'ai une petite note d'espoir. Je me dis qu'on doit pouvoir arriver à justement concilier ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Je pense, moi, on parlait tout à l'heure du hooliganisme et de la catastrophe du Wesel et de ce qui s'est passé quelques années plus tard à Hillsborough, qui ont conduit au rapport Taylor, à l'édification du rapport Taylor, qui a instauré en 89, je crois, l'obligation pour les stades anglais de ne réunir que des places assises, ce qui va finalement un peu à l'encontre de ce qu'on disait en préambule et du partage et de la ferveur autour d'un club et d'un objet sportif commun qu'on a envie de partager. Il y a des initiatives sporadiques dans certains clubs en France pour revenir à des parquages debout, justement pour retrouver un petit peu cette ambiance-là, avec un dialogue qu'on essaie petit à petit parti d'instaurer dans certains clubs entre les dirigeants des clubs et les groupes de supporters. Je crois qu'il y a eu quelque chose à Saint-Étienne. Je me demande s'il y a pas quelque chose à Lens qui a été fait en ce sens-là aussi. Et à Lens, on sait pertinemment que le seul COP de France, je crois, qui est en tribune latérale à Lens est toujours debout, quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, normalement, les COPs sont, même si les places sont assises, les COPs sont toujours debout et marchent toujours debout.
Vous êtes plutôt d'accord avec notre Rudy Ricciotti alors? Qui parle de ce problème, des stades qui n'auraient pas d'âme, des stades aseptisés dans le béton, dans les normes sécuritaires.
Ouais, ce qui est assez rigolo, du coup, c'est que on vit là-dedans, on le déplore, mais on s'extasie du coup devant le modèle inverse. Les déplacements récents du PSG au Celtic Park de Glasgow, au Maracana de Belgrade ou de Marseille à Istanbul pour affronter Galatasaray ont été commentés par la presse comme des déplacements quasi exotiques, dangereux aussi, mais le côté chaleureux, bruyant, vibrant de ces enceintes a été en tout cas signifié comme une singularité à l'heure où les stades ressemblent davantage à des lieux de consommation où d'ailleurs le supporter est invité à devenir un consommateur et un spectateur plus qu'un supporter. Alors après, on peut prendre un petit peu le contre-pied. Je pensais à la Major League Soccer, qui est le championnat nord-américain de football. Le championnat américain, il a été relancé à l'occasion du Mondial 1994 aux États-Unis. Il a d'abord pris ses quartiers dans les stades de football américain et de baseball, qui sont des stades gigantesques situés dans les grandes métropoles américaines, qui sont des stades souvent couverts ou pelouses synthétiques. Sinon absolument pas destinés au ballon rond de par leur configuration. Et jusque dans les années 2000, malgré des progrès sur le terrain réel du foot nord-américain, ça attirait peu de monde et les supporters se retrouvaient perdus dans les stades désespérément vides. Enfin, c'était triste à regarder parce que même s'il y avait 10 000 spectateurs dans un stade de 80 000 places, 10 000 ça sonne creux. Et depuis quelques années, les clubs de Major League Soccer ont construit leur propre stade. Alors déjà, ils ont construit leur propre stade, c'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir propriétaires de leurs enceintes sportives, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent plus à des consortiums, des sociétés de spectacle en fait qui exploitent les grandes enceintes sportives américaines. Et leur architecture est intéressante. Alors j'ai regardé un petit peu sur différentes équipes. Alors par exemple le stade du Chicago Fire, 20 000 places en briques à l'anglaise, Philadelphia Union, 18 000 places, 20 000 places à Portland, dans un stade autrefois utilisé pour le foot américain et le baseball, qui sont modifiés et qui accueillent aujourd'hui du foot. D'ailleurs, le stade, je l'ai trouvé super, le stade de Portland, parce que comme c'est un stade de baseball, il y avait un espèce de grand virage à l'endroit en fait, où se mettait le batteur, et en fait, ils ont transformé ça du coup en virage de derrière les buts, et ça fait une espèce de tribune géante avec un virage où il y a un groupe ultra. Enfin, du coup, je trouve que c'est plutôt réussi. Et du coup, c'est des stades qu'on pourrait qualifier de modestes, 20 000 places, 18 000 places. Mais du coup, un vrai mouvement ultra est né. Les observateurs notent que dans certaines villes, alors pas partout, mais ça viendra, l'ambiance durant les matchs n'a rien à envier aux meilleures rencontres européennes. Le derby entre Seattle et Portland, par exemple, est ainsi cité comme une des meilleures ambiances du pays, et même une des meilleures ambiances peut-être actuellement sur la planète foot. Donc voilà, ils ont fait le choix inverse d'aller vers du plus petit. Je sais qu'en Europe, la Juve a fait ce choix-là en construisant le Juventus Stadium, qui est un stade relativement modeste comparé à l'ancien stade du Dele Alpi. De resserrer un petit peu les supporters dans des enceintes un peu plus intimistes. Ça existe aussi.
Ça existe aussi. Après, il y a un peu le contre-exemple de la NBA qui, elle, a réalisé des matchs. Je pense notamment à San Antonio qui avait pratiquer des matchs dans l'Alamo Dome, qui était un stade de foot américain et qui était divisé de moitié avec un grand rideau et qui permettait d'accueillir près de 35 000 spectateurs. Les finales universitaires réunissent toujours des dizaines de milliers de spectateurs, donc souvent dans des stades de foot américain couverts. Donc ça, c'est la tradition et effectivement, on est toujours dans cette idée-là, avec l'idée de réunir le maximum de fans avec cette culture universitaire. Le bémol, c'est qu'aujourd'hui, les salles en NBA sont plus petites, mais elles sont finalement un peu l'apanage de ce qu'on cherche à faire dans les stades européens ou dans les stades modernes, à savoir beaucoup de sièges avec des fortes plus-values, des sièges qui vont ramener beaucoup d'argent, des sièges à prestations en fait, qui vont ramener beaucoup d'argent et générer beaucoup de de revenus au club et qui finalement vont pas faire en sorte que les salles soient vibrantes comme elles ont pu l'être par le passé, et on va être encore dans une dimension qui reste un petit peu aseptisée, comme tu le disais Maxime tout à l'heure. Donc peut-être que c'est cyclique et qu'un jour on reviendra avec des stades et des salles qui seront de plus en plus vivantes. En France, on a cet exemple avec les stades de foot récents, comme celui de l'Olympique Lyonnais, qui est un stade avec des infrastructures incroyables. On peut y faire à peu près tout ce qu'on veut en dehors d'assister à un match de foot. Il y a des boutiques par dizaines, des restaurants, tout ce que vous voulez y faire. C'est limite un parc d'attractions. D'ailleurs, le surnom et le nom originel de ce stade, c'est Welland. Voilà, ça veut un petit peu tout dire. Moi, c'est un peu ce qui me... c'est un peu ce qui me marque, et c'est un peu le point final de notre discussion, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça veut un petit peu tout dire, et j'espère qu'on réussira un peu de sortir de cette torpeur là et à garder la passion qui anime les spectateurs sportifs et les supporters en général.
Alors juste pour peut-être terminer, moi je peux parler de quelque chose que je connais un peu mieux, c'est le tennis, avec le stade de Roland-Garros, donc qui a été complètement refait, enfin surtout le court Philippe Chatrier. On a fait un nouveau court qui s'appelle le court des Serres, et on a détruit le cours emblématique Simone Mathieu, voilà, le cours numéro 1. Donc ça, c'est vraiment... tous les supporters ont un peu crié sur cette destruction, parce que c'était un cours, un cours mythique. C'est le premier match de Rafael Nadal, il l'a fait là-dessus. D'ailleurs, il a pris sa plaquette, il y avait une plaquette de tous les joueurs qui étaient dans le stade, il l'a gardée avec lui. Et après, on a effectivement donc refait le Philippe Chatrier pour lui mettre un toit, parce qu'il y a cette pression... de l'ITF qui en fait veut mettre des toits un peu partout pour que les matchs se jouent en fait plus vite, pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Le gros problème à Roland-Garros, c'était l'interruption en cas de pluie, hein, cette fameuse image de France 2 avec les parapluies
et les bâches
et là je pleure, mais du coup cette année on n'a pas eu ça. Mais le problème avec un toit, c'est que ça change complètement le tournoi. Les matchs, on a Amazon Prime qui privatise la nuit et des sessions de nuit, donc on peut pas regarder. C'est pas le même tournoi, parce que la nuit, la terre est beaucoup plus lourde que la journée, donc c'est pas du tout le même jeu. Et après, sur le stade en lui-même, alors au tennis il y a moins de hooligans, hein, je vais pas vous le cacher, je pense que c'est pas la même ambiance, mais c'est vrai que au tennis il y a ce problème des loges qui entourent en fait tout le tour du court. Et dans les loges, malheureusement, en fait, soit les gens ne viennent pas, soit les gens sont au restaurant pendant notamment un Nadal Federer, le dernier Nadal Federer en date d'ailleurs en 2019. Voilà. Donc c'était incroyable de voir tout simplement ces loges vides, alors que c'était un match de légende. Ça pose question sur cette infrastructure. Mais il y a quand même des bons souvenirs, hein, cette année, malgré la défaite, l'année dernière, malgré la défaite de Nadal. Il y a quand même eu... le match en fait devait s'arrêter à 22h. Les gens devaient rentrer avec le couvre-feu, avec le Covid. Et puis le match a été incroyable. Et je me souviens des supporters qui disaient « On partira pas, Guy, en appelant Guy Forget. » Et finalement, ils sont restés. Voilà. Il y a quand même encore des bons moments donc, dans le Philippe Chatrier.
Ouais, et pour conclure de mon côté, je voudrais dire qu'il y a encore aussi la possibilité, en tout cas si on se donne les moyens, de réinvestir les enceintes sportives et les stades, et d'en faire ce qu'on a envie qu'il soit. Je pense à quelque chose qui s'est fait il y a quelques saisons à l'Union Berlin, qui est un club de Bundesliga qui est monté il y a peu, qui est l'autre club de Berlin, c'est un club de l'ex-RDA, c'était le club de Berlin-Est, l'Union, et il y a quelques années, alors qu'ils étaient prêts à monter en Bundesliga, leur stade n'était plus du tout aux normes, et ils allaient devoir quitter leur stade s'ils voulaient monter en Bundesliga. Et alors ils ont un tout petit stade qui est dans un parc paysager à la sortie de Berlin, le stade Alte Forestei, et pour ne pas quitter ce stade, les supporters ont eux-mêmes rénové le stade, c'est-à-dire eux-mêmes ont payé les matériaux, des parpaings, du ciment, des planches, enfin voilà. Et en fait les week-ends il y avait des espèces de chantiers citoyens où eux-mêmes ont ils ont retapé leur stade pour le remettre aux normes, mais du coup c'est leur stade, et surtout ils sont restés dans un stade qui est d'un autre temps, hein, qui correspond au canon d'architecture d'une autre époque, mais ils sont dedans. Donc partout, voilà, si vous êtes passionné par les infrastructures sportives, si près de chez vous il y a des stades en mauvais état et que vous voulez qu'ils perdurent,
prenez votre pinceau,
allez les entretenir.
C'est le mot de la fin.
Sans être mauvaise langue, on sait qu'à Tours, on en a discuté la dernière fois, les infrastructures sportives sont dans un état assez désuet, assez difficile. Et je retiens l'idée, je me dis que peut-être des sportifs bricoleurs auraient peut-être une bonne idée de se mettre, de constructeurs pourraient peut-être réaliser une nouvelle salle de basket ou rénover l'existant. Sait-on jamais.
Et bien voilà, c'est le mot de la fin de cette émission, de cette dernière émission de 2021. Et
on
bien
se
merci.
Retrouve en 2022.
On se retrouve en 2022. Merci Thibaut.
Merci de m'avoir invité.
Et merci Seb.
Merci Maxime, merci Thibaut.
Pour toutes tes anecdotes. Et on va se quitter en musique.
Ouais, un peu de funk, ça vient de Portland justement, on en a parlé. Carl Smith and the Natural Gas Company, ça bounce pas mal, c'est parti.
C'est le titre Leftovers, c'est ça?
Ouais, Leftovers.
C'est parti. Et on se retrouve en 2022 alors.